7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, les start-up africaines peuvent-elles transformer le continent et surtout réinventer la banque ou faire sauter la banque? Pourquoi pas? Dans la plupart des pays du continent, moins de 20% des habitants ont un compte en banque classique. Mais ce chiffre a-t-il encore un sens pour parler de l'état du développement des transactions financières en Afrique subsaharienne? Quel est l'impact de l'urbanisation massive, de l'internet rapide dans les villes, du développement de la classe moyenne pour créer, proposer de nouveaux services financiers? Eh bien, nous allons en parler avec nos invités qui sont réunis cette semaine à l'occasion d'une conférence qui se tient au MEDEF, l'organisation patronale française à Paris, et à l'initiative du magazine bilingue Africa Magazine. Bonjour Chris Evnietam.
Bonjour Emmanuel, c'est Inspire Africa.
Voilà, exactement, pardon, Inspire Africa. Et vous avez 28 ans, vous êtes la cofondatrice et la directrice générale de ce magazine bilingue, français-anglais, et en même temps organisatrice des Inspire Talks. Donc, c'est-à-dire série de conférences qui sont nées de ce magazine et qui réunissent des leaders africains plutôt jeunes. Cette année, les débats portent sur les fintechs, c'est-à-dire les nouvelles technologies dans la finance. Bonjour Omar Cissé.
Bonjour.
Vous avez cofondé alors d'abord l'incubateur, le CETIC, qui est bien connu à Dakar, incubateur de start-up. Également, vous avez cofondé un fonds d'investissement, Teranga Capital, pour aider les PME. Et puis surtout, vous êtes le fondateur de la start-up InTouch au Sénégal, qui est un agrégateur de paiements. Ce qui veut dire quoi pour les auditeurs qui nous écoutent?
Nous intégrons sur un terminal unique, qui peut être un smartphone ou un PC, l'ensemble des moyens de paiement qui existent sur un marché pour permettre aux marchands de pouvoir les accepter de la meilleure manière possible.
D'accord, donc en fait vous permettez entre, je ne sais pas, Orange, Western Union, toutes ces grandes marques, l'argent peut circuler et on peut payer facilement.
Exactement, on permet à notre client premier, c'est le marchand qui dispose de notre terminal et effectivement il peut percevoir de tous ces moyens de paiement là.
Alors vous êtes ingénieur informaticien, peu connu du grand public, il faut bien le dire. On avait envie nous de savoir à quoi ressemble l'homme qui a réalisé la plus grosse levée de fonds en Afrique de l'Ouest pour une start-up il y a quelques temps, plusieurs millions. Et du côté des banques traditionnelles, on va se poser la question, comment faire face à l'arrivée de ces start-up, de ces innovations, ou plutôt comment prendre le train en marche? Bonjour Valérie Noël Kodjo-Diop.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes responsable innovation et développement Afrique à la Société Générale. Et puis quant à vous les voisins, si vous êtes entrepreneur ou simple consommateur, quel regard portez-vous sur ces outils numériques qui servent à payer, transférer ou recevoir de l'argent au quotidien? L'Afrique peut-elle tirer un réel avantage de son agilité sur ces technologies? On attend bien sûr vos appels et vos témoignages au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi notre numéro de téléphone WhatsApp. Vous pouvez donc postez vos messages écrits, vos messages vocaux, mais le mieux c'est quand même toujours de se parler pour de vrai, en live, en direct, dans l'émission. Je vous redonne notre numéro, 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, parce que nous sommes tous des voisins.
Je vous lis le message d'un auditeur posté sur Facebook, Kader, qui est au Burkina Faso, qui nous dit « Moi, je trouve qu'avec le temps, les smartphones remplaceront les banques traditionnelles. Dans mon pays aussi, au Burkina, la majorité des gens ont des comptes mobiles. » On donne aussi la parole à Steve, qui nous appelle de Abengourou, tout près du Ghana, en Côte d'Ivoire, à l'est du pays. Bonjour Steve.
Oui, bonjour madame la journaliste et bonjour le plateau.
Eh bien, soyez le bienvenu Steve, vous avez 28 ans et évidemment, je ne sais pas quelle est votre situation par rapport à le paiement par téléphone mobile et aux banques traditionnelles.
Ah oui, vous voyez, la banque que nous fréquentons avant est une banque qui facilite beaucoup la population et même qui contribue à construire nos divers pays, surtout la Côte d'Ivoire en particulier. Mais l'avènement des smartphones où on paye les choses, on fait les transferts, où on fait les transactions et les retraits d'argent, contribue aussi, nous facilite la tâche plus rapidement. Donc, pour cela, je pense très bien que il doit falloir que notre divers dirigeant africain doit essayer de diminuer le taux de bancarisation.
Vous voulez dire les frais bancaires que vous payez. Est-ce que vous avez un compte en banque dans une banque classique ou pas, Steve?
Oui, j'en ai de compte même.
Et vous faites allusion aux frais de tenue de compte?
Pardon?
Vous faites allusion aux frais bancaires que vous devez payer dans votre banque classique?
Non, là-bas, il n'y a pas de frais. Les frais sont un peu moins coûteux que la banque. Parce que si vous allez à la banque, il y a des formulaires à remplir, il y a des fichiers. Et si vous faites des erreurs sur ces fichiers, vous ne pouvez même faire le retrait. Pourtant, si vous allez dans les banques traditionnelles, ou appelées Orange Money, Move Money, il suffit de donner votre code seulement et puis la transaction se fait un peu si rapidement. Là-bas, il n'y a pas de perte de temps. Nous nous retirons rapidement et paquets à nos occupations.
C'est ça. Orange Money, ce n'est pas une banque classique. Hein. On est bien d'accord, c'est un opérateur de téléphonie au départ, hein, Steve. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Steve, sans indiscrétion?
Pardon?
Qu'est-ce que vous faites comme métier dans la vie, Steve?
Je suis un enseignant honoraire.
D'accord.
Je suis un enseignant honoraire.
D'accord, vous êtes enseignant. Mais finalement, vous allez garder votre compte en banque ou pas? Ou vous êtes uniquement là sur le paiement mobile?
Bon, je dois aussi garder à la banque et garder le téléphone mobile parce qu'à la banque, cela contribue au développement de nos pays. Vous voyez? Et ici, cela ne peut contribuer. Il suffit de prendre et dépenser. Pourtant, si ça est là-bas, la banque peut prêter à autre personne à ce qu'ils prennent pour construire le pays et arranger les infrastructures qui y compris dans le pays.
D'accord. Bon, très bien. Et ben, on a bien compris votre situation. Donc, hein, vous êtes un petit peu à la banque et un peu en téléphonie mobile, mobile banking. Michel nous appelle de Kisangani en République démocratique du Congo. Bonjour Michel.
Bonjour Emmanuel.
Michel, vous avez 22 ans, vous avez un compte en banque, mais vous avez dit au Standard que vous alliez le supprimer.
Oui, parce que je trouve que c'est à péril, parce que personnellement, je préfère garder mon argent dans M-Pesa. Un système Vodacom, on garde son argent.
D'accord, donc en porte-monnaie électronique via M-Pesa, parce que vous, c'est l'opérateur que vous utilisez à Kisangani, hein, à l'est de la RDC.
Oui, c'est ça. Et c'est très pratique parce que j'ai mon argent partout où je suis. J'ai résolu des problèmes inattendus qui demandent de l'argent. J'achète des unités, je paie mes syllabistes. Et je n'ai pas peur que mon argent se perde parce que même si la carte de SIM vient de se perdre, je peux la récupérer à faire une SIM blanche. C'est-à-dire une nouvelle carte qui garde mon identité et mon argent ne se perd pas. Donc je la récupère. Et je peux faire des transactions un peu faciles par rapport à une banque traditionnelle.
Oui, mais évidemment, vos transactions sont plafonnées. Hein. Vous ne pouvez pas faire des transactions avec des montants très importants.
Non, j'ai fait des transactions très importantes parce que même le parrain, quand il m'envoie de l'argent pour les frais académiques, c'est toujours par M-Pesa. Donc moi aussi, je peux envoyer à quelqu'un.
Y compris pour les frais académiques. Merci beaucoup Michel de nous avoir appelé. Bon bah voilà un petit peu l'état des lieux pour nos auditeurs. Évidemment que le paiement mobile aujourd'hui est entré dans toutes les cultures, tous les usages. Les technologies financières, Chris Avnietam, sont en pleine croissance sur le continent. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui s'est passé en 10 ans depuis, grosso modo 11 ans même, hein, depuis l'arrivée de M-Pesa au Kenya jusqu'à aujourd'hui, sachant que les Africains représentent maintenant la moitié des portefeuilles mobiles dans le monde, Chris Eve.
Il s'est passé en 10 ans M-Pesa. Ensuite, on a eu...
Au Kenya. Au départ.
Ensuite, on a eu tous ces opérateurs mobiles qui ont voulu répliquer ce modèle qui a quand même réussi à augmenter l'inclusion financière au Kenya. Ensuite, on a eu des fintechs. Aujourd'hui, en Afrique, on compte 300 fintechs actives.
C'est-à-dire les nouvelles technologies financières,
alors,
les nouvelles technologies
généralement
appliquées
à la finance.
À la
en général,
finance, hein,
ce sont des start-up qui proposent des solutions technologiques auxquelles les banques traditionnelles n'avaient pas forcément pensé ou n'osaient pas mettre en place. Et en 10 ans, les levées de fonds, même j'ai envie de dire entre 2015 et 2017, ont été multipliées par 4 pour les start-up fintech en général.
Ce qui veut dire que le marché, y compris international, croit à ces innovations. Omar Cissé, vous, comment fonctionne InTouch exactement? Combien de transactions par jour passent par InTouch? Et quel type de somme? Comment les consommateurs utilisent votre agrégateur de paiement?
Nous sommes partis du constat que, comme les chiffres du GSMA le montrent, 58% des transactions passent par des points physiques, donc des marchands. Ça passe par des salons de coiffure, des boutiques de quartier, des pharmacies, parce que le client final est obligé d'aller au niveau de ces points et d'ouvrir un compte ou bien pour déposer de l'argent ou retirer de l'argent. Vu le développement fulgurant du mobile money en Afrique et de toute la digitalisation des services autour, beaucoup de solutions sont mises en place. Et ces solutions-là, pour être utilisées par le marchand est obligé d'utiliser autant d'outils ou d'interfaces que de fournisseurs de services. Ce que nous avons fait, c'est que nous notre client finalement, c'est le marchand à qui nous mettons à disposition un terminal unique qui lui permet, au lieu d'avoir 3, 4, 5 mots de passe, d'avoir 3 outils, d'avoir X interlocuteurs, autant d'interlocuteurs que de solutions, nous lui mettons en place cette interface unique qui lui permet d'accepter tous les moyens de paiement et de proposer à ses clients un large catalogue de services. Donc, ils peuvent aller du crédit téléphonique au transfert d'argent, à l'assurance, mais aussi accepter tous les moyens de mobile money qui existent sur le marché.
Ce qui veut dire que pour un client, finalement, il peut aller dans beaucoup plus de points pour faire différentes transactions financières sans être obligé d'aller chez un commerçant parce que lui travaille avec Orange, chez un autre parce que lui travaille avec une autre marque, etc. C'est ça, en fait.
C'est exactement ça. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, c'est que vous verrez beaucoup de points qui affiche toutes les enseignes d'opérateurs de services.
On s'y perd.
Et quand vous présentez au niveau de ces points-là, malheureusement, c'est un service qui marche ou deux, parce que c'est tellement compliqué pour eux de travailler avec tous ces partenaires qui sont obligés à un moment donné de se rabattre sur un de ces opérateurs. Et donc là, partout où vous verrez Touch présent, qui est notre marque, notre solution, c'est que les opérateurs de services qui sont embarqués sont tous disponibles, parce qu'ils fonctionnent de la même manière sur notre plateforme.
Combien de transactions par jour, donc?
Nous faisons aujourd'hui un peu plus de 60 000 transactions par jour sur le Sénégal et nous venons juste de lancer la Côte d'Ivoire, le Mali et le Cameroun.
Ouais. Voilà. En moyenne, quelle somme?
On est sur des paniers moyens d'à peu près 50 euros par transaction.
Est-ce que vous diriez qu'en Afrique, ce sont les usages qui inspirent l'innovation, contrairement aux pays développés, où c'est davantage l'offre qui change les usages? Parce que si on prend l'histoire de M-Pesa au Kenya, M-Pesa s'est mis en place parce qu'on s'était rendu compte que les gens, en fait, pour s'échanger de l'argent, s'échangeaient d'abord des unités de téléphone. Alors, l'unité de téléphone, c'était bien de l'argent, finalement, matérialisé autrement. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait, en fait, transformer ça en argent. Est-ce que c'est finalement le consommateur, l'usager qui est à la source de vos innovations, parfois?
C'est effectivement le consommateur qui est à la source, hein, parce que quand on regarde aujourd'hui le développement du mobile money, très souvent on a l'impression, quand on regarde de loin, que c'est une innovation technologique. Ce n'est pas une innovation du tout technologique, c'est une innovation en termes d'usage, comme vous dites. En termes d'usage, parce qu'aujourd'hui on utilise le téléphone qui était déjà utilisé, on utilise une technologie aussi basique que l'USSD, qui a toujours existé avec les opérateurs, et maintenant l'usage par contre a changé. L'usage a changé, et ce qui est encourageant, c'est le fait que tout ce qui tourne autour de ces usages-là puisse maintenant s'adapter pour qu'on puisse l'utiliser au service des populations.
Valérie Noël Kodjo-Diop, vous qui travaillez à la Société Générale sur les questions d'innovation, est-ce que vous avez le sentiment, bien que vous apparteniez à une grosse banque, qu'aujourd'hui, quand on travaille sur le marché africain, il faut d'abord être au plus près des usages, des consommateurs?
Absolument, absolument. Et ça confirme en fait le rôle un peu de la banque et tout, et son modèle et tout de client centricité. Donc voilà, donc c'est bien entendu et tout le client qui guide les évolutions, mais également les usages. Donc voilà, donc j'entendais effectivement parler tout à l'heure de cette offre en fait de mobile money et de l'opposition avec les banques et tout traditionnelles.
Ah bah
nous, on a essayé
des auditeurs qui la font l'opposition, hein, parce qu'ils voient les frais de gestion de tenue de compte, par exemple, dans les banques classiques. Et
alors,
s'il y a une commission qui est prise, hein, sur les transactions financières.
Donc, alors, on réalise, en fait, aujourd'hui et tout, que le mode de consommation de la banque évolue. Donc, on évolue nos modèles en fonction, effectivement, et tout, des besoins des clients. Et les deux modèles ne sont pas en compétition et tout, ils se côtoient. Donc, on a constaté, bien entendu, que les banques traditionnelles étaient un mode auprès de qui, en fait, les populations mâles ou non bancarisées avaient quelques réticences. Et on a développé donc un modèle donc, qui s'appelle Yup. Alors, j'ai envie de dire et tout, un porte-monnaie électronique, mais j'ai envie de dire et tout, c'est une banque digitale dans la poche. On a la banque dans la poche. Donc, c'est le sujet de la mobilité est un sujet fondamental. Et il a de cela, donc, d'intérêt qu'on s'est associé donc, à une start-up française qui s'appelle TacPay et qui nous permet d'être agnostique en fait, des telcos. Donc, indépendamment, alors je dis à nos auditeurs qu'ils aient...
Indépendant des télécommunications.
Enfin, indépendant des opérateurs telcos. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir un comment dirais-je, Orange Money ou M-Money, quel que soit l'opérateur, on peut déployer effectivement cette application Mobile Money. Elle est également agnostique de la forme de téléphone, que ce soit et tout, des, comment dirais-je, et tout, des feature phones ou que ce soit des
smartphones. C'est-à-dire que la banque copie le modèle aujourd'hui de la téléphonie mobile et en s'aidant des start-up.
En s'appuyant de start-up, je dirais, pour pouvoir avoir accès à des technologies donc, qui permettent de développer, comment dirais-je, et tout, la possibilité de constituer ou de construire la banque de demain. Mais également, on travaille avec des start-up parce qu'on considère qu'elles sont plus à même, parce qu'elles côtoient, comment dirais-je, la base et qu'elles connaissent très rapidement. On a cette contrainte, en fait, de ce qu'on appelle le time to market, c'est-à-dire, pas d'anglicisme. Alors, les contraintes de l'évolution
il faut aller
du marché,
il faut aller sur très le continent africain, ça va très vite.
Les clients ont des exigences et ont une maturité qui est quand même assez remarquable. Et les startups, à notre sens et tout, sont plus à même et tout de capter en fait ces tendances. Donc, on développe des architectures au niveau bancaire pour pouvoir permettre l'expérimentation de ces startups et l'élargissement des usages de notre offre Yup.
Ça vous fait plaisir, Omar Cissé, d'entendre que les startups sont plus rapides, plus agiles pour répondre aux exigences des clients sur le continent africain?
Effectivement, c'est effectivement, c'est en tout cas nous un message que nous avions porté depuis longtemps, essayer de rapprocher la start-up de la grande structure, et on sent qu'aujourd'hui ça devient une vraie réalité. Les derniers événements même organisés à Paris lors de VivaTech le confirment encore, où on avait des start-up qui sont à côté de grands groupes pour apporter l'agilité, mais aussi
et qui sont courtisées, des start-up africaines qui sont courtisées. Ça ne veut pas dire qu'elles arrivent à lever des fonds forcément plus facilement, mais quand même.
Exactement.
L'ambiance est en train de changer. Hein. Vous nous disiez tout à l'heure, Omar Cissé, que finalement, les start-up n'inventent rien. Elles partent de technologies très simples. Est-ce que la start-up pratique ce qu'on appelle l'innovation frugale, pour répondre de manière peu coûteuse aussi aux besoins des utilisateurs? Ou est-ce que ça vous vexe si on parle d'innovation frugale?
Ça ne nous vexe pas du tout, sachant que ce qui est important aujourd'hui dans un contexte africain dans lequel nous sommes, c'est à un moment donné, si on doit redéfinir déjà ce qu'est l'innovation, c'est répondre à un besoin. De peut-être d'une manière différente. Et aujourd'hui, les startups qui sont basées en Afrique ou qui interviennent en Afrique globalement apportent des réponses concrètes du fait de leur connaissance terrain, du fait de leur connaissance technologique, mais aussi du fait de l'adaptation des usages qu'elles apportent. Donc pour nous, ce n'est pas du tout vexant.
Les consommateurs qui nous appellent disent c'est plus facile, c'est plus simple. Est-ce que c'est également réellement moins coûteux de payer via des solutions bancaires imaginées par des start-up, de transférer de l'argent, de recevoir de l'argent? Est-ce que le client final est vraiment gagnant?
La grosse innovation, ce n'est pas juste que ça passe par une start-up, mais c'est le modèle qui est derrière. Qui fait en tout cas en sorte que beaucoup de barrières liées au coût sont levées. Quand la Société Générale parle aujourd'hui de ces types de solutions, quand aujourd'hui le retail banking se développe sans les agences bancaires traditionnelles, la banque de détail se développe sans les agences traditionnelles qui aujourd'hui avaient un vrai coût dont on ne se rend pas compte. On se rend compte que beaucoup de banques dans les pays...
Un auditeur nous écrivait le message, nous disait que les frais de banque étaient trop élevés en Côte d'Ivoire, près de 12%. C'est un auditeur qui nous donne ce chiffre. Hein, mais...
Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Omar, sur effectivement le mode opérationnel de déploiement de la banque est de plus en plus efficient. Donc en fait, ce qui est important, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sujet de la mobilité, donc on veut développer des structures qui permettent et tout d'être dans l'écosystème, c'est-à-dire le client de demain a quelques réticences à se déplacer dans les banques traditionnelles.
Donc, il veut tout dans son smartphone.
Il veut ça,
le client.
Veut tout dans sa poche. C'est pour ça que je vous disais effectivement que notre offre Yob, c'est la banque dans la poche, et qui, bien entendu, puisqu'il y a des moments où il a besoin de retirer son argent, donc on crée des réseaux d'agents qui sont dans les écosystèmes de ces populations que nous courtisons et qui permettent ainsi effectivement de mieux les servir.
Voilà. Vous nous appelez les voisins et les voisines, ne serait-ce que pour nous raconter quels sont vos usages numériques avec votre smartphone pour payer, pour transférer de l'argent, pour en recevoir. D'ailleurs, il faudra qu'on parle aussi des sites internet, hein, du e-commerce, parce que quand on n'est pas bancarisé jusqu'à présent, c'était compliqué, c'est en train de changer. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Money follow you, banana follow you, brother follow you. Cause I'm in love with you, yeah. Money fall on you, banana fall on you, paparazzi follow you, cause I'm in love with you, yeah. Are you done talking? Tell me baby, are you done talking, yeah. Are you done talking? Tell me baby, are you done talking, yeah. Are you done talking? Tell me baby, are you done talking, yeah. Are you done talking? Tell me baby, are you done talking, yeah. I don't wanna be a player no more. Yeah, I don't wanna be a player no more. Cause my guys call me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on Nintendo. Cause my guys call me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on Nintendo. Yeah. Money fall on you, banana fall on you. I fall on you, cause I'm in love with you, yeah. Money fall on you, banana fall on you, paparazzi follow you, cause I'm in love, yeah, with you, yeah. If I offend you, if I offend you, because sorry, oh baby, take a to, sorry, oh baby, take a to. I'm in love with you, yeah. I'm in love with you, oh baby, nothing of it to change a move, nothing of it to change. If I talk, then go say I dey talk. Yeah. Tell me why then they use Panadol for our headache. Yeah. Yeah. How I go chop if my baby no chop? Yeah. They want to spoil our market. Yeah. I don't wanna be a player. C'est Davido, Fall chez 7 milliards de voisins. On est en direct du lundi au vendredi pour parler de tout ce qui fait la vie quotidienne. Et aujourd'hui, on parle de ces nouveaux services bancaires ou pas bancaires. Hein. Je ne sais plus quel est le mot qu'il faut utiliser parce que maintenant, tout part du smartphone. Tout a commencé il y a 11 ans très exactement avec l'innovation majeure sur le continent africain, M-Pesa, au Kenya. Aujourd'hui, on a le plus gros taux de portefeuille mobile, donc dans le téléphone. Ça se passe sur le continent africain, peut-être aussi, et bien sûr, parce qu'on a le plus faible taux de bancarisation, moins de 20% en général, hein, voire moins de 15% selon les pays. Je pense que Omar Cissé, vous connaissez bien cette question-là. Exactement. Sur le taux de bancarisation au Sénégal, vous qui êtes un chef d'entreprise sénégalais, où est-ce qu'on en est maintenant sur l'accès à la banque classique au Sénégal?
Je pense que ce qu'on voit qui est en train vraiment de changer, c'est la banque qui est en train aujourd'hui, en tout cas, de s'alléger. On va dire ça comme ça, vu l'intervention de l'auditeur de tout à l'heure qui disait que c'est un peu compliqué d'accéder aux services bancaires. La banque est en train de se rapprocher. Et je ne vais pas citer de nom, mais on a certaines banques qui sont en train de supprimer des agences et qui sont en train de pousser beaucoup plus le digital, même sans développer de nouvelles offres de monnaie électronique. Et pour nous, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant à voir et qui sont en train d'aujourd'hui d'intégrer des plateformes comme les nôtres pour
InTouch,
accéder.
Donc comme, l'agrégateur de paiement.
Exactement. Et qui, on l'appelle, c'est ce service que nous appelons l'agency banking, permet aujourd'hui à une banque de dire à un client, vous pouvez aller dans une station, par exemple, déposer de l'argent, vous pouvez aller
par exemple,
dans une
station Total, hein, par exemple, puisque ils sont investisseurs chez vous.
Total qui est investisseur chez nous.
On va dans une station Total et donc là, comment ça se passe?
Vous venez, vous dites, je dépose de l'argent sur mon compte bancaire et vous donnez l'argent et on a vos références et tout de suite, votre compte est crédité.
Et ça passe par votre agrégateur de InTouch. Ça veut dire qu'en réalité, on n'est pas bancarisé pour les chiffres de la Banque mondiale. Un client comme ça, il n'est pas bancarisé. Pourtant, il a un compte en banque.
Ce client, il est bancarisé. Il a son compte en banque, mais ce qu'il faisait, il était obligé d'aller dans la vingtaine ou centaine d'agences, si c'est une banque bien établie, et suivre toute une file d'attente pour pouvoir déposer.
Là, vous citez les clients qui profitent des nouveaux services proposés
exactement,
désormais par les banques qui
exactement
courent après les innovations technologiques proposées par les startups.
C'est la manière de consommer la banque qui
exactement
change.
C'est ça.
Donc je pense que ils sont bancarisés dès lors et tout. Mais c'est intéressant ce que dit Omar en parlant effectivement des stations essence. On essaye bien entendu, par nos clients également corporate, d'avoir des points de ce qu'on appelle et tout de retrait et de même d'enrôlement en fait d'un certain nombre de clients, parce que ce sont des clients qui aussi, dans le cadre effectivement de la gestion de leur trésorerie, peuvent proposer effectivement et tout des excédents de trésorerie qu'ils peuvent proposer à des clients qui dans leur écosystème. On essaie de trouver en fait.
Est-ce que dans ces cas-là, les frais de gestion diminuent ou pas quand vous vous allégez, quand vous vous digitalisez, vous une grosse banque comme la Société Générale.
Écoutez, j'ai envie de vous répondre.
C'est ça la question qui intéresse.
Je vous répondrai en vous disant, et tout, à partir du moment où le déploiement opérationnel est plus efficient et moins coûteux, donc en résonance, bien sûr, et tout, le service sera
moins
coûteux.
Oui, c'est moins cher qu'une agence. Voilà. C'est vrai qu'une des particularités du continent africain, c'est qu'il y a très peu d'agences bancaires. En gros, il y a 5 agences pour 10 000 habitants, quand il y a 13 agences dans les pays émergents d'Asie. Mais ça veut dire qu'il va y avoir à terme encore moins d'agences, peut-être.
J'ai envie de vous dire, on recommence encore avec notre modèle et tout de client centrique, c'est le client qui va guider effectivement les formes de banque. Aujourd'hui, effectivement, on a intuitivement l'impression et tout que le taux de, comment dirais-je, et tout de construction de banque en dur va peut-être décroître. Mais encore une fois, ce que je voulais vous dire et tout, il ne faut pas, même dans notre sémantique et tout, introduire une forme d'opposition entre les formes de banque. Ce sont différents types de formes de banque qui adressent différents types de clients.
Et d'ailleurs, on l'entend bien, les auditeurs ne font plus bien la différence d'ailleurs entre je suis chez Orange Money, je suis dans une banque, ils ne savent pas très bien qu'est-ce qui est une banque, qu'est-ce qui n'est pas une banque.
C'est ça, et je pense que ce qui va fondamentalement changer auprès de la banque, c'est la manière d'adresser les différents types de clients. Cette segmentation de la clientèle va être de plus en plus nette. Aujourd'hui, on entend certains de vos auditeurs qui aujourd'hui, malheureusement, ne sont plus vraiment la cible de la banque, en tout cas dans la manière dont ça se faisait. Je m'explique. Nous, on voit une banque au Sénégal, par exemple, qui dit « moi, je ferme mes agences parce que mes agences qui y vont, c'est plus des gens qui ont un dépôt de moins de X francs, ce qui ne me convient pas, donc il me coûte plus cher que ce qu'il ne me rapporte. Et ces gens-là, je les adresse de manière digitale. » Par contre, j'ouvre des agences pour des gens qui ont des revenus de plus de Y francs. Parce que ces gens-là, il faut que je les serve de manière particulière et je gagne différemment.
Alors, ce que je voulais peut-être aussi pour compléter, encore une fois, comme je vous dis, il n'y a pas d'opposition, puisqu'on a parfois des gens qui sont bancarisés, qui également, il y a une forte porosité avec des gens non bancarisés. Donc, par exemple, l'offre Yup, elle pourra être totalement destinée à des gens bancarisés ou à des gens non bancarisés. Par exemple, dans nos écosystèmes donc africains, je veux dire, on peut effectivement être dans la banque, avoir un compte bancaire et vouloir ensuite faire des transferts de son compte sur son portefeuille électronique. Donc voilà, donc il n'y a pas d'opposition, c'est intriqué entre la banque traditionnelle et la banque de demain.
Chris Eve Nietam, donc, puisque vous êtes à l'origine de cette conférence qui se tient à Paris, Inspire Talk, et qui réunit des entrepreneurs, des startups pour parler de ces nouvelles technologies adaptées aux transactions financières. Quel est l'impact de ces nouvelles technologies sur le secteur informel à l'heure actuelle en Afrique?
Ça permet en tout cas de contrôler les flux. C'est aujourd'hui, à travers tout ce qui est mobile money et même la plateforme InTouch, hein, permet aujourd'hui, on va prendre le cas de la vendeuse d'oignons,
oui,
d'accord, qui avant traitait tout en cash. aujourd'hui, avec son portefeuille électronique, elle a tendance à déposer son argent sur le portefeuille électronique. Donc aujourd'hui, on a la capacité de capter ces flux qui n'étaient pas forcément comptabilisés ou qui étaient plutôt évalués, parfois à la hausse, parfois à la baisse, par la Banque mondiale ou par d'autres institutions. Mmh. Aujourd'hui, on est capable d'avoir une vraie traçabilité de ces flux banques, de ces flux financiers. Donc c'est l'avantage pour surtout les personnes qui n'étaient pas bancarisées avant et pour le secteur informel aussi.
Mmh. Et pour les États ?
La question,
pourrait donner des idées pour lever l'impôt ?
Je pense que la question est un peu délicate pour les États. Je ne vais pas m'avancer, mais ce que je vais dire, c'est la problématique, c'est surtout celle de la régulation. Je pense que l'innovation allait un tout petit peu rapidement par rapport à la réglementation. Et je pense que les États aujourd'hui devraient essayer de trouver le juste milieu entre ce qui est intéressant pour les consommateurs, ce qui est bien pour leur mode de vie, qui correspond à leur mode de vie aujourd'hui, et les taxes et les frais à allouer à ces nouvelles technologies.
Omar Cissé, sur la question des États, si on sait de mieux en mieux ce que fait le secteur informel à toute heure du jour et de la nuit, et comment circule l'argent ?
Je pense qu'effectivement, on le voit au-delà même du contrôle des impôts et autres, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir que 95% de la scolarité, plus de 95% de la scolarité aujourd'hui est collectée via le mobile money. Et une des raisons fondamentales, c'était quoi ? C'était que toutes les écoles publiques collectaient de l'argent, mais du fait de la fraude, tout n'était pas forcément déclaré. Depuis que l'État a mis en place ce dispositif-là, tout passe par ce système. Et donc, il y a un bien meilleur suivi de tout ce qui se fait. Maintenant, dans l'approche, il ne faut pas qu'on voit forcément le mobile money comme un outil de contrôle. Ça ne devrait pas être que ça. C'est ce que Chris disait tout à l'heure. Je pense que l'État a un rôle très, très important à jouer pour faire en sorte que les populations l'utilisent plus en mettant beaucoup d'incentives autour, mais surtout en mettant toute une régulation qui protège le consommateur final.
Et quid de la sécurité pour le consommateur ? Parce que c'est vrai que ces innovations technologiques, ce que nous disent tous les auditeurs, c'est d'abord qu'effectivement, il y a moins de cash qui circule, donc leur argent est davantage en sécurité, mais ce n'est pas parfois sans poser quelques questions aussi de sécurité. Comment proposer de l'immédiateté aux consommateurs et en même temps de la sécurité ? Est-ce que ça, maintenant, on sait très bien le faire ?
Je pense que l'avantage du mobile money, c'est qu'il repose sur une technologie éprouvée. Le consommateur avait l'habitude de recharger du crédit téléphonique. En Afrique, c'est du prépaiement. La personne recharge du crédit téléphonique, surveille son solde, recharge quand il en a besoin, etc. Et a aujourd'hui gagné à une forte confiance, à développer une confiance envers ces technologies-là. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que au niveau des usages, par contre, la fraude est en train massivement de se développer. Ce n'est pas du fait de la technologie, mais des usages. C'est quelqu'un qui vous appelle et qui vous dit « je vous ai envoyé de l'argent, pourquoi vous ne me le rendez pas, je me suis trompé ?» Il va utiliser tous les superfuges possibles pour que vous puissiez lui transférer de nouveau de l'argent, etc. Et là, les opérateurs sont en train d'organiser des campagnes de communication parce qu'il faut le dire, c'est beaucoup de gens analphabètes qui utilisent ces solutions, des gens qui ne sont pas encore au fait de tout ce qui se développe.
Et qui utilisent ces outils de manière très intuitive,
exactement.
En fait, parce qu'ils sont pensés aussi pour ces populations-là.
Exactement. Ouais. Et donc, la faille n'est pas au niveau vraiment technologique, mais elle est au niveau des usages.
Alors moi, par exemple, et tout au niveau de l'offre YUP et toute la technologie qu'on utilise en termes de mode d'authentification, donc c'est le son. Donc c'est un mode d'authentification, effectivement, et tout, qui nous sort de toutes les technologies d'authentification et tout, des opérateurs et tout, telco. Donc ce qui en fait, effectivement, une solution qui permet de contrer ou de répondre à des...
Donc la solution mobile banking de la Société Générale.
Oui, voilà,
en fait,
donc qu'on a développé avec une technologie particulière, avec une start-up.
Ouais.
Voilà.
Un auditeur nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Georges, bonjour, vous êtes à Lomé, au Togo.
Oui, bonjour, c'est monsieur Akan, Georges, je suis à Lomé.
Oui, vous êtes en direct, on vous écoute, Georges.
Oui, donc je disais que l'émission est très intéressante par rapport à la thématique développée ce matin. Mmh. C'est que ces histoires de transactions bancaires auxquelles nous assistons de nos jours, Ah, je vois, même ça arrivera avec le e-commerce, on ne sera plus obligé de sortir. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que nous voyons que dans les banques traditionnelles même, on a ces agences-là, ces agences de transactions à moindre coût, ben, et très rapide, en un temps court. Nous sommes en train de voir que les banques sont en train de s'approprier également le système. Et au-delà même, nous voyons que dans les coins, dans les petits recoins de notre capitale, par exemple au Togo, ces derniers temps, je suis en train de voir les kiosques de EcoBank qui on le voit un peu partout.
Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'EcoBank ne construit plus d'agence, mais des kiosques façon Orange Money, quoi, en gros.
Voilà, comme genre Orange Money. Donc, dans les coins, vous pouvez faire des dépôts. Et on reçoit également des messages de la Poste et de EcoBank, justement, nous invitant à ouvrir un compte sur nos mobiles, comme on le faisait avec Timoni, le réseau Togocel, et Flouze. Avant, c'était Flouze, et après, le réseau Togocel aussi a commencé.
Et alors, vous êtes intéressé, vous avez pris un compte de cette façon-là, vous avez fait vos calculs, surtout, si vous êtes gagnant, perdant?
En réalité, quand nous faisons les transactions dans les quartiers, nous perdons en coût de transaction, mais en temps rapide, et puis ça nous facilite rapidement les choses, quoi. Tu as besoin de faire une dépense ou de recevoir 10 000, 15 000, 20 000. Un parent, tout de suite, on t'envoie ça sur ton numéro, tu vas juste à côté, tu prends. Mais quand tu es à la banque pour déposer, envoyer, là, c'est juste 30 francs, tu déposes ta somme, donc. Mais c'est qu'à la banque, ça traîne, quoi. Ça traîne. Vous pouvez passer une demi-journée à la banque avant de toucher votre somme. Voilà.
Merci Georges de nous avoir appelé. Qui veut réagir par rapport à ce que disait Chrisève là-dessus sur
peut-être Valérie, je pense.
Juste un petit rappel quand même, Chrisève, sur ou Omar Cissé qui connaît très très bien ces questions-là en tant qu'agrégateur de paiement. Mais le pourcentage qui est pris sur chaque transaction en moyenne, il varie d'un pays à l'autre. C'est en moyenne combien maintenant?
Nous, on est en tout cas sur des coûts de transaction d'à peu près 0,5%.
0,5%?
0,5%,
d'accord.
C'est ça.
Et le plafonnement de ces transactions, parce que contrairement à une banque classique, on ne peut pas ni payer au-delà de, ni transférer au-delà d'une somme de combien en moyenne, selon les pays, si on fait une grosse moyenne.
Ouais, pour compléter ce que je disais tout à l'heure, par contre, ça peut aller jusqu'à 3% de paiement. On est entre 1 et 3% par rapport au coût de paiement.
Entre 0,5 et 3%.
Les 0,5, c'est les coûts de transaction liés au transfert et autres qui peuvent aussi monter selon les paliers.
Ouais. Et après, donc, on voit bien qu'évidemment, pour des entreprises qui font beaucoup de volume, ça monte très vite, ça rapporte très vite de l'argent.
Ça rapporte très vite de l'argent pour nous, oui, mais c'est vraiment un métier de volume. Hein. Ouais. Il faut en faire beaucoup,
bien
beaucoup.
Parce que les sommes en moyenne, c'est 50 euros, les moyennes de transaction.
Exactement.
Et donc le plafonnement,
dépendamment
puisque
du
vous
niveau
n'êtes pas établissement bancaire.
Dépendamment du niveau de connaissance du client, nous on se base sur les règles du mobile money, et donc c'est l'opérateur qui fixe les règles, et dépendamment du niveau de connaissance du client, ce qu'on appelle du KYC, Know Your Customer, ça peut être du 200 000 CFA, ou jusqu'à 1,5 million CFA.
Si, ce que vous savez du client, ce qu'il a prouvé qu'il faisait en termes de fiabilité, c'est ça?
C'est ça, parce que de manière basique, vous pouvez vous enregistrer à partir de n'importe quel point.
Ce qui n'est pas sans poser les fameuses questions de sécurité qu'on évoquait tout
à l'heure. Exact, mais ça limite le montant maximum de transactions que vous pouvez faire. Et si vous voulez faire plus de transactions, vous êtes obligé de vous enregistrer de manière un peu plus... élaborer.
Valérie Noël Kodjo Diop pour la Société Générale sur ce que nous disait là cet auditeur, hein, c'est que maintenant ce sont les banques qui réinventent ce qu'ont inventé au départ les opérateurs de téléphonie mobile, c'est-à-dire des petits kiosques de très très grande proximité.
Absolument, comme je vous le disais, il y a des kiosques de proximité, mais également des agents physiques de proximité. Donc on cherche à trouver les gens qui sont dans l'écosystème, de sorte que la mobilité étant un vrai sujet, la banque est dans l'écosystème. Donc voilà. Alors ce que je voulais aussi dire et tout, c'est que ce qu'offre l'offre Mobile Money de Société Générale, c'était vraiment une banque alternative, puisque nous serons à même et tout d'offrir du crédit également et de l'épargne et des produits d'assurance.
Ça, c'est une révolution culturelle.
C'est une révolution
pour une
culturelle
banque qui n'est pas En général, les banques ne sont pas très prêteuses.
Mais alors, c'est très intéressant ce que vous dites. Et c'est aussi,
en termes de banque de détail sur le continent africain,
c'est aussi
tout le
de l'innovation dans notre approche maintenant, effectivement, d'appréciation du risque de nos clients de demain. Et d'ailleurs, les startups africaines nous permettent de développer des technologies qui, aujourd'hui, nous permettent d'appréhender le risque, non pas dans sa dimension patrimoniale, c'est-à-dire en fonction de ce que gagne ou non l'individu, mais plutôt comportemental. C'est-à-dire que les startups nous permettent de collecter ce dont on parle habituellement, la données,
ouais.
Et font en fait de l'analyse de la donnée pour pouvoir de manière prédictive savoir maintenant quel sera le comportement, un peu à l'image que de ce que font
par exemple,
en fait, le crédit à la consommation.
Au Botswana, il y a des analystes de Big Data qui constatent que lorsqu'une personne classe son répertoire téléphonique en utilisant les noms et les prénoms au lieu juste du patronyme unique, eh ben, elle rembourse mieux, c'est ça ?
Absolument, ce sont des manières et tout. Effectivement, parfois l'accès à la donnée est compliqué, donc on essaie de trouver des modes alternatifs pour apprécier effectivement du comportement d'individus. Donc c'est vrai que ça paraît très très surprenant au départ. Enfin moi qui suis un petit peu...
Ça montre juste que celui qui classe son répertoire avec le prénom et le nom de famille, il est plus éduqué, il est... Voilà.
Ce sont des modèles qui le disent. Hein, donc les chiffres parlent.
Oui.
Donc voilà, les algorithmes parlent.
Donc,
et le talent des startups
va être fiché pour avoir une note ensuite de
Absolument.
Capacité à emprunter de l'argent. Omar Cissé.
Fichier, oui. Mais effectivement, en tout cas, l'opportunité va de plus en plus être offerte à ceux qui utilisent le mobile money, ceux qui utilisent les transactions digitales pour mieux bénéficier effectivement du crédit. Ouais.
Et puis, il faut surtout adapter les offres aux habitudes et surtout au niveau d'éducation des populations. C'est très important parce que si on a envie que l'inclusion financière soit plus importante dans nos pays, il faut aller vers les consommateurs et pas juste rester dans une position d'attente en fait.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Il nous reste quelques minutes. On peut prendre vos appels si vous appelez très très vite.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
On discute avec vous de tous ces nouveaux usages, de ces nouvelles technologies appliquées aux transactions financières, avec vous Omar Cissé de InTouch Sénégal, avec vous Valérie Noël Kodjo-Diop de la Société Générale et puis Chris Avnietam de Inspire Talk, conférence qui se déroule cette semaine et qui réunit des chefs d'entreprise pour justement parler de cette inclusion financière. Aujourd'hui, Omar Cissé, est-ce que toutes ces, ce qu'on appelle ces fintech, hein, ces startups qui se montent autour de ces nouvelles technologies pour les transactions financières. Est-ce qu'elles vont créer des emplois ? C'est forcément une question que se posent de jeunes diplômés qui nous écoutent.
Je pense qu'elles vont beaucoup créer d'emplois, sachant que si vous prenez l'exemple de InTouch, nous avons commencé nos premières transactions en novembre 2015. Nous étions 4 à 6 personnes. Aujourd'hui, nous avons une équipe de quelques 200 personnes. Nous sommes appelés à être un peu plus de 300 personnes d'ici la fin de l'année. Et donc, forcément, nous allons créer beaucoup d'emplois dans le sens où nous allons continuer à accompagner de plus en plus de partenaires. Nous allons être présents dans de plus en plus de réseaux. Et pour que tout cela se fasse, nous sommes en train de réinventer, on va dire, d'inventer un nouveau métier qui n'existait pas, et de nous organiser pour assurer la meilleure
ouais.
sécurité possible.
Vous recrutez beaucoup, très vite, vous avez du mal à recruter ou pas ?
Dépendamment des postes dont on parle, je pense qu'au niveau...
Les profils que vous recherchez le plus
dans la partie technologique, non, on a pas de mal du tout.
Les développeurs, ça se passe bien.
Ça se passe très bien. Nous sommes nos développeurs sont basés à Dakar et viennent de partout en Afrique. L'avantage de Dakar, c'est que c'est devenu un hub de la formation.
Oui, donc vous recrutez sur tout le continent.
Nous recrutons sur tout le continent.
Ouais. Et sinon, sur d'autres métiers, c'est plus difficile ?
Ça peut être plus difficile dans des métiers de top management. Maintenant, l'avantage qu'on a, c'est que notre diaspora est très riche et nous avons beaucoup de personnes de la diaspora qui rentrent aujourd'hui pour occuper des fonctions de haut niveau, parce que quand on parle d'entreprise avec une ambition panafricaine comme InTouch, il faut avoir des gens qui ont eu cette expérience-là dans de grandes entreprises, et nous arrivons à les recruter beaucoup de la diaspora.
On arrive bientôt au terme de cette émission. Est-ce que vous pensez, les uns et les autres, qu'une véritable inclusion financière va avoir lieu dans les années à venir sur le continent africain qui reste en retard par rapport aux autres continents ? Comment voyez les choses, Chris Avnietam?
Je pense que fatalement, ça doit arriver. De toute façon, quand on a aujourd'hui des agents de crédit en scooter qui vont dans les marchés rencontrer des personnes pour qu'elles puissent ouvrir des lignes de crédit, l'inclusion financière se fait. Donc oui, forcément oui.
J'en dirais tout, le téléphone mobile offre, comment dirais-je, une opportunité absolument extraordinaire et tout pour permettre tout cette inclusion financière. Donc prenons-la.
Oui, prenons-la. Alors là, je vous cite juste un commentaire qui vient de tomber sur mon écran de Marem qui est à Dakar. Elle dit « Je trouve que les frais bancaires sont trop élevés, comme les frais de tenue de compte et les intérêts sur les prêts. C'est pourquoi je ne veux pas ouvrir de compte bancaire. » Voilà. Elle a deux comptes d'épargne dans deux banques et différentes d'ailleurs. Je suis en train de lire au fur et à mesure qu'on m'envoie le message. Mais je pense qu'elle est en train de changer. Elle utilise les services de transfert d'argent rapide. Et donc, vous voyez, c'est pas la première qui nous dit qu'elle s'apprête à fermer ses comptes en banque.
Mais je suis contente et tout de vous dire et tout qu'il y en a beaucoup d'autres et tout qui ouvrent et tout notre offre Yup.
Ouais.
Donc vraiment, donc voilà, comme je vous le disais et tout, c'est une offre, comment dire, diverse pour adresser et tout différents clients. Voilà.
Afin de conclure cette émission, j'aimerais que vous nous disiez aujourd'hui plus largement, surtout pour un chef d'entreprise comme vous, Omar Cissé, qu'est-ce qui vous rend optimiste dans le développement du continent? Parce que là, on a parlé exclusivement des technologies financières, mais les start-up aujourd'hui répondent à des besoins extrêmement larges, extrêmement variés des consommateurs, des habitants du continent africain. Comment vous voyez évoluer tout ça?
Ce qui nous rend optimistes, c'est que tout ce dont on est en train de parler aujourd'hui, il y a une dizaine d'années, on parlait que du Kenya, on parlait que de M-Pesa qui en son temps, rien qu'en 2012, représentait 76% de ce marché-là. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, c'est en train vraiment de se développer. Et l'Afrique de l'Ouest, maintenant, qui représentait que 17% en 2012, représente aujourd'hui plus de 36% en 2017. On commence à voir que l'Afrique, c'est vrai, c'est 54 pays. C'est peut-être 54 comportements différents à la base, mais nous sommes en train de voir, en tout cas, une Afrique qui est en train d'uniformiser les usages et donc l'adoption des technologies, ce qui est extrêmement important pour une entreprise comme la nôtre, parce que cela facilite les choses. Il est extrêmement difficile pour une start-up d'adapter sa solution pays par pays. Mais si à un moment donné les usages restent les mêmes, si à un moment donné les besoins restent les mêmes, cela facilite grandement aujourd'hui le développement de nos solutions, ouais. Et nous sommes en train de voir que cela est en train d'arriver.
On n'a pas parlé de la jeunesse du continent que tout le monde évidemment connaît, mais est-ce que les jeunes qui ont cette agilité assez immédiate avec le numérique, est-ce que ça réduit en tant que consommateur, mais aussi en tant que potentiel travailleur dans ce secteur, ça réduit l'écart entre les jeunesses africaines et celles des autres continents? Vous avez ce sentiment-là ou pas, Omar Cissé?
Ça le
vous
réduit.
Vous avez monté votre boîte avec vos frères au départ. Hein.
Exactement. Ça le réduit largement. On parle beaucoup du concept de leapfrogging, où nous sommes en train de sauter des étapes et même d'être en avance sur certaines choses. Quand je viens en Europe et que je parle du mobile money, les gens nous regardent en nous disant c'est quoi ce dont on parle, alors que l'Europe est en train de s'y mettre. Quand on voit des solutions comme Orange Bank qui commencent à venir, à se développer, nous sommes très fiers de constater que cela est en train de se faire dans l'autre sens.
C'est le reverse innovation. Ouais.
Exactement.
L'innovation inversée. Et est-ce qu'à terme, l'argent en cash pourrait disparaître du continent africain?
Je ne suis pas certaine. Non. C'est effectivement un point d'aboutissement. Voilà, tout le monde souhaite, effectivement, mais je pense qu'au bout du bout, culturellement,
en Chine, il y a
de
plus en plus de consommateurs qui payent juste avec le téléphone.
Et je vous dirais même et tout que même dans des pays européens, des pays et tout comme le Danemark ou la Suède, où justement ils sont en train d'envisager et tout de faire le mouvement inverse, parce qu'ils ont peur du Big Brother, parce que c'est effectivement ne plus avoir de vie privée, puisqu'en fait on voit
y compris sur les transactions financières. Merci à vous tous, Chrissev Nietam de Inspire Talk, Omar Cissé de InTouch Sénégal, et merci à vous Valérie Noël Kodjo Diop de la Société Générale. Merci à toute l'équipe. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera de la condition des femmes en Arabie Saoudite, puisque le 24 juin prochain, elles seront enfin autorisées à conduire après des années de débats. S'agit-il d'une révolution dans ce pays? Réponse demain.